7h, à Kiev 6h, à Paris 5h en temps universel. Le journal, bonjour Marion Kazanov.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à tous.
La guerre en Ukraine à la une donc, les Européens essaient de se faire entendre.
Malgré le rapprochement entre les États-Unis et la Russie, à Washington, le président français a dit croire à une première étape, une trêve entre Moscou et Kiev. Le procureur de la Cour pénale internationale à Kinshasa, dans le cadre d'une enquête sur des crimes dans l'est de la RDC. En Syrie, une conférence de dialogue national accueillie avec optimisme, mais entamée sans les Kurdes. Et puis dernière chance pour un accord à la COP16 sur la biodiversité. 4 mois plus tard, les débats reprennent et ce qui bloque, comme souvent, ce sont les financements.
Une trêve possible dans les semaines à venir, donc en Ukraine.
C'est ce que pense le président français Emmanuel Macron. Il a rencontré son homologue américain Donald Trump hier à Washington pour lui parler notamment de cette guerre en Ukraine qui vient d'entrer dans sa 4e année. Devant la presse, ils se sont affichés presque complices, alors que sur le fond, les divergences sont profondes sur le dossier ukrainien, Washington s'étant rapproché de la Russie. Il n'y avait d'ailleurs pas d'Américains. Hier à Kiev, la capitale ukrainienne a reçu plusieurs délégations occidentales venues réaffirmer leur soutien. Un déplacement bienvenu pour ces habitants de Kiev rencontrés par Anastasia Becchio et Boris Vichit.
Devant le mur d'enceinte du monastère de la cathédrale Saint-Michel transformé en mémorial avec ses milliers de photos de combattants tués et ses bouquets de fleurs, Natalia se recueille devant le portrait d'un jeune soldat tué l'an dernier sur le front du Donbass. En cet anniversaire de l'invasion russe, elle formule un vœu.
Que l'Europe se lève, enfin, et qu'elle aide plus l'Ukraine, parce que sinon, elle risque de connaître le même sort.
Des restrictions de circulation ont été mises en place autour du monastère. Une petite délégation étrangère vient déposer une gerbe. Devant le parvis, d'habitude plus animé, les voitures des délégations étrangères attendent leurs passagers, réunis non loin de là avec Volodymyr Zelensky. Nicolas, un retraité, se réjouit de la venue de ses nombreux dirigeants occidentaux.
C'est un très grand soutien pour nous, avant tout un soutien moral. Trump a en quelque sorte réveillé les Européens en leur disant « Arrêtez de compter sur moi, les États-Unis sont loin de vous, vous devez vous en sortir tout seul. » Et maintenant, les Européens commencent à réfléchir au sens de la paix sur le continent. L'Europe commence à se réveiller.
Nicolas, 75 ans, espère que l'Ukraine rejoindra un jour l'Union Européenne. Lui n'est pas sûr de pouvoir vivre jusqu'à cette échéance qui semble encore lointaine. Anastasia Becchio, Boris Vichit, Kiev, RFI.
Et Kiev visé tôt ce matin par des missiles. Une alerte aérienne a été déclenchée dans tout le pays. La population est appelée à se rendre dans les abris. Le rapprochement entre les États-Unis et la Russie s'est concrétisé. Hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, les deux pays ont voté ensemble une résolution sur le conflit. Résolution qui insiste pour une paix rapide en Ukraine. Pas un mot, toutefois, dans ce texte sur une éventuelle responsabilité russe. La résolution a été adoptée avec 10 voix pour. Les 5 autres pays se sont abstenus, tous des pays européens, notamment la France et le Royaume-Uni.
Les Européens qui craignent toujours d'être écartés des pourparlers donc sur l'Ukraine.
Notamment après le revirement avéré américain en faveur de la Russie et des pourparlers de Riyad la semaine dernière où les deux pays se sont parlés en tête à tête. Mais le président russe, Vladimir Poutine, l'assure, il n'exclut pas une participation européenne à des discussions de paix.
Lors de la conversation téléphonique et lors de la réunion de Riyad, nous avons certainement aborder des questions liées à la crise ukrainienne. Nous n'avons pas discuté de l'essentiel de la question. Nous avons seulement convenu de l'aborder. Ceci étant dit, nous ne rejetons évidemment pas la participation des pays européens. Les Européens, mais aussi d'autres pays, ont le droit et la possibilité de participer aux pourparlers de paix. Nous traitons cela avec respect.
Le président russe, Vladimir Poutine.
Et ce matin sur RFI, notre grand invité international, c'est Vadim Sisonenko, conseiller et chef du service presse de l'ambassade de Russie en France. Entretien avec Arnaud Pontus à 6h20 TU pour l'heure à Kinshasa. Il est 6h04 à Kinshasa où se trouve le procureur de la Cour pénale internationale, Marion.
Karim Khan a atterri hier en RDC. Il sera question du conflit dans l'est du pays qui oppose le groupe M23, soutenu par le Rwanda, à l'armée congolaise. Karim Khan doit consolider sa feuille de route sur la justice dans le cadre d'une enquête lancée par la CPI, Stéphanie Maupas.
Le procureur doit rencontrer les autorités congolaises, à commencer par le chef de l'État et des membres du gouvernement. Karim Khan a aussi rendez-vous avec la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta. Le procureur entend faire de la justice une partie de la solution à la crise actuelle dans l'est de la RDC. Il devrait mettre en garde les auteurs de crimes en cours dans le Nord Kivu, où le M23, milice soutenu par le Rwanda, affronte l'armée congolaise et s'est emparé d'une large partie de la province. Au début du mois, le procureur avait lancé un appel à témoins, comme dans toutes les enquêtes, il aura besoin de la coopération des États, au premier chef celle de la RDC. Karim Khan a ouvert cette enquête sur le Nord Kivu en octobre dernier à la demande des autorités congolaises. Elle porte sur les crimes commis dans la province depuis le 1er janvier 2022. En marge de cette enquête, son bureau entend aussi soutenir la création d'un tribunal spécial en RDC. Stéphanie Mopalae, RFI.
Et ce conflit dans l'est de la RDC a fait plus de 7000 morts depuis le début de l'année, des chiffres donnés hier par la première ministre congolaise, Judith Suminwa-Tuluka.
Plus de 2 mois après la chute de Bachar al-Assad, la Syrie tient une conférence de dialogue national.
Censée représenter tous les Syriens, elle doit évoquer par exemple la future constitution ou encore la réforme des institutions. Ces discussions ont démarré sous de bons auspices puisque l'Union européenne a suspendu hier des sanctions économiques contre la Syrie. Les Syriens voient l'ouverture de cette conférence d'un bon œil, même si pour certains, elle manque encore d'inclusivité. Reportage à Damas de Mohamed.
Après que le comité préparatoire a rencontré plus de 4000 personnalités dans différentes provinces de Syrie, la conférence pour le dialogue national syrien démarre sous l'attente et l'optimisme populaire quant à ses résultats pour l'avenir du pays, comme l'affirme Nahla, une avocate trentenaire, et Saïd, un commerçant quadragénaire rencontré à Damas.
Le plus important est que le résultat soit en accord avec la situation du pays et du peuple et qu'aucune décision ne soit prise qui nuise aux Syriens ou pèse sur leur vie quotidienne. Car nous en avons assez après 14 ans de crise.
En fin de compte, ce qui nous importe, c'est de ressentir une stabilité sécuritaire, économique et sociale et que tout le monde obtienne ses droits dans le pays, que ce soit les chrétiens ou toutes les autres communautés syriennes.
Cet optimisme est également partagé par les politiciens et les experts, à l'image d'Anwar Amo, professeur de sciences politiques à l'université de Damas. Toutefois, il reste mesuré, car le gouvernement provisoire a exclu les Kurdes de la conférence, alors qu'ils constituent un élément clé de la société.
Le timing était surprenant et la conférence n'a pas été annoncée à l'avance. Même les invitations n'ont pas été envoyées avec un délai suffisant. Le plus long étant d'un jour seulement, sans prendre en compte le fait que de nombreux Syriens sont dispersés à travers le monde.
Selon l'ordre du jour de la conférence, les participants discuteront en une journée des questions relatives aux libertés publiques, à l'économie, à la déclaration constitutionnelle et à la justice transitionnelle. À Damas, Mohamed Erami, RFI.
En Cisjordanie occupée, l'armée israélienne poursuit une offensive d'ampleur. La Croix-Rouge et l'ONU ont partagé hier leur inquiétude sur la situation sur place. Pour la première fois en 20 ans, des chars ont été déployés dimanche dans le camp de déplacés de Jenin, considéré comme un bastion de la lutte armée palestinienne.
La COP 16, biodiversité, partie 2 à Rome.
Les participants de cette COP n'avaient pas trouvé d'accord à temps à Cali, en Colombie. Ils se retrouvent donc en Italie, 4 mois plus tard, pour continuer les débats. Les négociateurs vont tenter de mettre fin à un bras de fer entre pays du Nord et pays du Sud sur des questions financières. Lucille Gimbert.
Il reste 2 gros sujets au menu des pays à nouveau réunis pour la COP biodiversité. Le premier, c'est comment les politiques publiques mises en place par chaque pays pour freiner l'effondrement du vivant seront-elles évaluées ? Les critères de cet examen mondial prévu en 2026 seront clés pour que les efforts collectifs permettent vraiment de lutter contre la disparition des espèces, comme les abeilles par exemple, ou contre la dégradation des écosystèmes naturels comme les rivières, les prairies ou les forêts. Sur cet aspect, a priori, les choses ont bien avancé. Le second sujet, source lui de tension, ce sont les financements pour parvenir à l'objectif international de protéger 30% des terres et des mers du globe d'ici 2030. Faut-il ou non un nouveau fonds dédié à la biodiversité ? C'est une demande ancienne des pays du Sud qui trouvent les instruments existants opaques et difficiles d'accès. Mais en face, les pays du Nord font valoir leurs contraintes budgétaires et ne veulent pas que l'aide se fragmente. La présidence colombienne propose une voie médiane ici à Rome. Un processus de travail pour établir un fonds dédié, nouveau ou non, d'ici 2030. On verra lors de cette première journée de COP comment elle est reçue.
Lucille Gimbert.
En France, c'est un procès hors norme, l'une des plus grandes affaires de pédocriminalité jamais jugée.
Joël Le Squarnec, ancien chirurgien, est accusé d'avoir violé et agressé sexuellement près de 300 patients, en majorité mineurs, entre 1989 et 2014. Le procès s'est ouvert hier avec les premiers mots de l'accusé, compte rendu d'audience au tribunal de Vannes, Baptiste Coulon.
Si je comparais devant vous, c'est parce que j'ai commis des actes odieux dont je dois assumer la responsabilité. C'est avec une voix posée, presque sourde, que Joël Le Squarnec livre ses premiers mots à la cour. Veste noire, lunettes rectangulaires, cheveux blancs, il était apparu le visage fermé à l'ouverture de l'audience ce midi. Mais l'un de ses avocats avait prévenu, l'accusé ne cherche pas à se défausser de ses responsabilités. À 300 mètres de la salle d'audience, trop petite pour toutes les accueillir, les victimes observent l'accusé sur un écran dans un amphithéâtre. Certaines se tiennent la tête entre leurs mains. Les bancs sont clairsemés, toutes ne sont pas là. Que valent ces premiers mots de l'accusé ? Sur le fond, ils ne sont pas si différents de ceux qu'il avait eus face aux enquêteurs. Mais à l'époque, les psychiatres notamment avaient douté de la sincérité de ses remords, qualifiant Joël Le Squarnec de pervers narcissique sans compassion à l'égard des victimes. Alors prudence et humilité. Humilité, c'est le mot choisi par l'avocat général dans sa prise de parole aux airs de mise au point. Nous jugeons un homme, mais ce procès est avant tout adressé aux victimes.
Baptiste Coulon. Le pape François reste hospitalisé à Rome, 12e jour d'hospitalisation pour une pneumonie. S'il reste dans un état critique, le Vatican a précisé hier soir que l'état de santé du souverain pontife était en légère amélioration.
Allez, il est 6h11 à Paris, on referme ce journal en musique. Marion avec le nouvel album de Laura Cahen.
De plus en plus incontournable sur la scène française, elle revient avec De l'autre côté, son troisième album, un voyage électro-folk à écouter comme on lirait une histoire d'amour. Un appel perçu avec Edmond Sadaka.
Laura Cahen, c'est d'abord un chant fragile, intime, parfois proche du murmure. Ce nouveau disque, elle l'a construit comme une fiction, avec au centre du récit deux femmes qui tentent de fuir un monde en furie pour vivre un amour rendu impossible.
Je me suis construit cette histoire de deux femmes qui tombent éperdument amoureuses. À partir de ce moment-là, elles peuvent plus se séparer, mais le monde devient fou, les gouvernements sont de plus en plus radicaux. C'est un petit peu une peinture de notre monde, en fait.
Demain, quitter la ville.
Ces deux femmes vont devoir traverser une ville en feu, éviter les bombes pour aller de l'autre côté vers un ailleurs plus solaire. Pour cet album, la chanteuse a travaillé avec la compositrice et arrangeuse franco-britannique Josephine Stevenson, connue pour quelques collaborations prestigieuses en Angleterre. Cela donne de superbes orchestrations qui mettent bien en valeur la mélancolie qui se dégage de chacun des titres.
Il y a le gris et les vautours et puis le lierre autour.
Extrait du nouvel album de Laura Cahen, De l'autre côté.
Un album que l'on découvrira un peu plus longuement dans le choix musical de RFI. Ce sera aux alentours de 7h50 en temps universel. Merci Marion Cazanov pour le journal. Pour l'instant, il est 5h13 en temps universel, une heure de plus ici à Paris. Je vous en dis un petit peu plus sur le programme des trois prochaines heures. On va évidemment évoquer dans les journaux la suite des discussions sur la guerre en Ukraine alors que le conflit est entré dans sa quatrième année. Les combats pourraient s'arrêter dans les prochaines semaines. C'est en tout cas ce qu'espèrent les présidents français et américains. Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump hier à la Maison Blanche.
Nous voulons la paix, on est totalement d'accord. Nous voulons un deal rapide, mais pas un accord qui soit fragile.
Et pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine estime que les Européens peuvent participer aux négociations de paix. On va donc y revenir dans nos journaux. Et puis avec l'invité d'Arnaud Pontus, Vadim Sisonenko, premier conseiller et chef du service presse de l'ambassade de Russie en France. Rendez-vous aux alentours de 6h20, temps universel, 7h20, heure de Paris. Autre invité dans cette matinale, le chercheur Marc Lavergne pour évoquer cette charte signée par les forces de soutien rapide au Soudan pour fonder un gouvernement parallèle. Ce sera vers 5h45 et 6h45 TU. Des reportages également à suivre, notamment en Syrie, où une conférence de dialogue national a débuté quelques jours avant l'annonce d'un nouveau gouvernement. Pour l'instant, les minorités restent prudentes face à l'arrivée au pouvoir des islamistes, notamment les chrétiens.
Maintenant, ce qui nous fait peur, c'est qu'on nous impose le voile, qu'on nous empêche d'être libres, ou par exemple qu'on interdise à une fille et un garçon de marcher ensemble. Ça aussi, c'est arrivé, alors ça fait peur.
Un reportage à écouter vers 8h15, heure de Paris. Des reportages, des chroniques également, notamment sur la reprise des négociations à la COP16 sur la biodiversité, avec pour l'instant toujours des désaccords entre les pays du Nord et du Sud sur les financements censés arrêter la destruction de la nature d'ici 2030. Et puis l'importance du secteur agricole dans le monde, eh bien on y reviendra dans Aujourd'hui l'écho avec Stéphane Genest après le journal de 8h. Voilà pour le programme. Mais d'abord, à la une, en Asie, les premières semaines de la campagne électorale qui sont agitées aux Philippines. Les élections de mi-mandat se tiendront en mai prochain et pour l'instant, la campagne est marquée par des échanges virulents entre le président Ferdinand Marcos Jr. et l'ancien président Rodrigo Duterte. Dans le pays, ce scrutin est important puisque les élections de mi-mandat généralement annoncent la couleur de la présidentielle qui sera prévue, elle, dans 3 ans, en 2028. Nemo Lecoq-James est avec nous en direct de Manille. Bonjour Nemo.
Bonjour Clotilde, bonjour aux auditeurs de RFI.
Alors d'abord, pourquoi ces élections de mi-mandat sont-elles si importantes aux Philippines ?
Parce qu'elles constituent le premier réel face-à-face électoral entre la famille Marcos du président et la famille Duterte, celle de la vice-présidente et de l'ancien président Rodrigo Duterte. Ces deux dynasties qui étaient autrefois alliées sont aujourd'hui rivales. Ces élections permettent donc d'avoir une idée du ton qui sera donné aux prochaines présidentielles en 2028. Et puis elles auront aussi un impact important sur la vie des Philippins parce que le 12 mai, pratiquement tous les postes, sauf celui du président, vont être remis en jeu. On parle de près de 20 000 sièges, statuts qui vont être soumis au vote des Philippins. Ces postes sont répartis dans tout le pays et comprennent des places allant du Sénat jusqu'aux villes et municipalités. Depuis quelques semaines, c'est uniquement la campagne des postes au Sénat qui s'est ouverte. Elle est très importante car des postes nationaux sont en jeu. Il y a près de 70 candidats pour 12 sièges. Le président Marcos présente 12 candidats de son administration et il compte bien remporter tous les sièges.
Ferdinand Marcos qui a exprimé ses ambitions dès le premier jour, un émo de la campagne avec un discours assez offensif contre le camp Duterte.
Alors oui, Marcos a tout de suite annoncé la couleur quand il a présenté ses candidats au poste du Sénat. Lui qui a toujours été plutôt mesuré face à une famille Duterte assez provocatrice et menaçante, n'a cette fois-ci pas mâché ses mots. Hein. Il a multiplié ouvertement les références aux politiques de Duterte, notamment autour de 3 thèmes principaux. La guerre contre la drogue menée par son prédécesseur, la corruption et la Chine. Il s'est par exemple vanté du fait que ses candidats, eux, ne promeuvent pas les intérêts particuliers de Pékin. Sa stratégie est donc claire, son but n'est pas de convaincre les Philippins de voter pour lui, mais plutôt de voter contre les Duterte. Et ces derniers sont plutôt forts à ce jeu-là aussi. Rodrigo Duterte a, lui, accusé le président d'être un consommateur d'héroïne. Il lui a reproché de n'avoir tenu aucune promesse pendant son mandat. Et puis, il est allé encore plus loin en évoquant l'idée de tuer des sénateurs afin de libérer des sièges pour les candidats qu'il soutient.
Et alors, que pense la population de tout ça, Nemo ?
Je crois que beaucoup de Philippins sont fatigués de ces querelles qui font beaucoup de bruit et qui monopolisent les débats alors qu'ils ont d'autres préoccupations comme la hausse du prix du riz ou le manque d'opportunités d'emploi. Selon les analystes, c'est donc un moment crucial pour l'opposition qui pourrait bien gagner du terrain en proposant un autre modèle de gouvernance. Par exemple, il y a quelques jours, la liste Makabayan, une coalition de partis indépendants de gauche, est allée faire campagne dans la ville de Davao, le fief des Duterte. C'est la première fois qu'un groupe politique promeut sa candidature sur ce territoire.
Nemo Lecoq-James en direct de Manille donc ce matin pour RFI. Il est 6h18 à Paris. Les combats vont-ils cesser dans les prochaines semaines entre l'Ukraine et la Russie ? C'est en tout cas ce qu'espère le président français, les présidents français et américains Emmanuel Macron et Donald Trump qui se sont rencontrés à Washington pour tenter de s'accorder sur les contours de cette éventuelle future paix. Vous allez y revenir Arnaud Pontus ce matin avec votre invité.
Oui, nous recevons ce matin Vadim Sisonenko, premier conseiller et chef du service presse de l'ambassade de Russie en France. Après 3 ans de guerre, que veut la Russie ? C'est une des questions qu'on va lui poser ce matin. Alors que Donald Trump a engagé le dialogue avec Vladimir Poutine, quelles sont au juste les intentions de la Russie ? Le président est-il prêt à négocier ? Quelles négociations ? Avec qui ? Pourquoi faire ? La Russie veut-elle un cessez-le-feu ? Et lequel ? Quelle paix au-delà ? Quelle garantie de sécurité ? On comprend bien qu'on assiste à une accélération des événements depuis quelques jours. Vous l'évoquiez, le président américain espère une fin de guerre rapide, une trêve possible dans les semaines à venir, dit le président français qui était à Washington. Qu'en dit la Russie ? On entendra Vadim Sisonenko, premier conseiller et chef du service presse de l'ambassade de Russie en France, dans une heure.
Un rendez-vous donc aux alentours de 6h20, Arnaud Pontus, temps universel, 7h20, heure de Paris. Des galas, des golden, des pink ladies. Près d'1,5 million de pommes sont récoltées en France chaque année. Le pays est le troisième producteur en Europe. Mais en culture conventionnelle, c'est l'un des fruits qui reçoit le plus de traitements phytosanitaires. Plus de 30 insecticides, fongicides et herbicides qui sont pulvérisés sur les fruits en moyenne avant d'être mangés. Alors face au risque de pollution de l'environnement et au risque pour la santé, l'objectif européen et français est de réduire de moitié l'usage des pesticides d'ici 2030. Sauf qu'il existe pour l'instant peu de méthodes efficaces et naturelles pour s'en passer. Des chercheurs de l'INRAE, l'Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, essaient donc de développer de nouvelles méthodes. C'est le programme Cap Zéro Phyto, reportage de Jeanne Richard.
Il faut manger.
Bien rouge et sucrée, mais aussi résistante à la tavelure, l'une des principales maladies du pommier, la pomme Story est le fruit d'une belle histoire. Déjà plantée en Europe, elle commence à s'exporter aux États-Unis, en Afrique du Sud et au Chili. Et c'est dans les vergers de l'INRAE à Beaucouzet, dans l'ouest de la France, qu'elle est née, dans le programme de sélection génétique du chercheur François Laurence.
On essaie de contribuer à la création de nouvelles variétés qui vont être moins traitées. On fait des croisements et puis on va sélectionner petit à petit les combinaisons qui rendent la variété plus résistante. Et ensuite, ça va être planté dans des vergers comme ici. Là. Ça fait plusieurs années de croisements avant d'obtenir une variété.
Il a fallu planter des milliers de pépins de pommes et plus de 20 ans pour trouver Story. Sa résistance à la tavelure n'est que partielle, mais elle permet déjà de réduire de 30 à 40% les traitements contre le champignon qui attaque les fruits et les feuilles. C'est un des leviers pour remplacer définitivement les pesticides. Claude Courreau, ingénieur, participe aussi au projet Cap Zéro Phyto.
On n'y arrivera pas avec un produit miracle qui va remplacer un phyto. Il va falloir additionner tout un tas de différentes pratiques, la génétique, des nouvelles variétés plus résistantes, les UV, c'est tout nouveau. Donc on va cumuler tout un tas de techniques pour arriver à une solution qui va remplacer le phyto.
Les chercheurs ont en effet découvert que s'ils éclairent les pommiers avec des rayons UV, les plantes activent leur défense naturelle pour se protéger des coups de soleil. Elles seront un peu mieux préparées en cas d'agression, estime Mathieu Gaucher, ingénieur à l'INRAE.
L'idée, ça va être d'activer l'immunité de la plante avant que la maladie arrive, pour qu'elle se protège d'elle-même contre les maladies.
Pour cela, en plus des rayons UV, ils testent aussi divers produits stimulateurs des défenses des plantes dans les immenses serres du centre de recherche ou directement dans les vergers.
Donc il y a par exemple le phosphonate de potassium qui est un minéral, du limocide, donc c'est une huile essentielle d'orange douce, des extraits de plantes comme des parois de tomates qui vont, lorsqu'appliquées sur d'autres plantes, vont activer les défenses de la plante.
Toutes ces pistes de recherche semblent prometteuses, mais il faudra encore plusieurs années de tests pour déterminer quelle combinaison de leviers sera suffisamment efficace pour remplacer les pesticides chimiques délétères pour la santé et l'environnement. Surtout, il faudra que ces nouvelles techniques soient abordables pour inciter les agriculteurs à les adopter sans alourdir encore la pression sur un métier en crise.
Le reportage de Jeanne Richard. On continue de parler d'environnement.
RFI Matin.
Session de rattrapage à Rome pour les 196 pays membres de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique. On en parle ce matin dans notre question d'environnement, puisque la COP16 reprend aujourd'hui pour tenter de dénouer le blocage sur les financements pour mettre en œuvre l'accord de Kunming-Montréal, accord qui fixe l'objectif de mobiliser 200 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour arrêter la destruction de la nature. Les pays du Sud souhaitent un fonds dédié à la biodiversité, mais ceux du Nord s'opposent à un nouveau fonds. Et à côté de cela, des mécanismes alternatifs sont imaginés. Bonjour Pauline Glaise.
Bonjour.
Parmi les pistes évoquées, les crédits biodiversité. Alors qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, c'est un concept récent mais qui gagne du terrain. Ces crédits biodiversité sont censés servir à financer des projets de restauration ou de préservation de la nature. D'un côté, une entité protège la biodiversité, d'un autre, un acteur privé paie et reçoit en crédit ou en certificat. Jean Burcard, directeur du plaidoyer de WWF France, donne un exemple.
On a un projet de protection des forêts. Donc, on veut protéger 15 000 hectares de forêts en France. Donc, une entreprise va payer plusieurs centaines de milliers d'euros pour protéger des hectares de forêts pendant 30 ans. Ça, c'est un crédit biodiversité.
Et le prix dépendrait de l'offre et de la demande.
Sauf que le concept et l'expression de crédit biodiversité ne font pas l'unanimité.
L'expression est calquée sur les crédits carbone. Des entreprises de secteurs différents et de pays différents peuvent s'en échanger. Mais Sébastien Trier, directeur du centre de réflexion IDRI, jugeait à Cali que cette universalité ne pouvait être transposée à la biodiversité. Il préférait donc l'expression de certificat.
Les crédits biodiversité dont on parle, je proposerais de les appeler des certificats d'impact positif pour la biodiversité. Parce que c'est l'idée qu'une entreprise se dise, dans mon rapport de responsabilité sociétale, je veux montrer que j'ai aussi contribué à protéger la biodiversité à l'autre bout du monde. Ça me paraît exact. En revanche, on ne peut pas dire qu'en finançant un projet de restauration de la biodiversité dans la forêt amazonienne, une entreprise basée en France et qui a un impact sur la biodiversité en France peut compenser ça.
Par exemple, protéger des éléphants, cela ne remplacera pas une espèce de libellule et inversement, et une zone qui vient d'être restaurée n'accueille pas la même biodiversité qu'une forêt séculaire. Dans une feuille de route, le panel consultatif international sur les crédits biodiversité estime que la compensation ne peut être que locale et comparable.
Alors, si les entreprises ne peuvent pas effacer comptablement leurs impacts négatifs, pourquoi est-ce qu'elles dépenseraient de l'argent ?
Alors, c'est une question qui risque de freiner la demande, mais elles peuvent le faire parce qu'elles ont intérêt à protéger la nature. 72% des entreprises de la zone euro en dépendent. Et puis, les obligations réglementaires pourraient les y inciter. Une directive européenne est en train de mettre à jour les données extra-financière que les entreprises doivent publier. L'impact sur la biodiversité en fait partie.
Quand ils vont devoir mettre dans une colonne tous les impacts négatifs sur la biodiversité, ils vont probablement avoir envie de mettre en face, dans une autre colonne qui ne viendra pas compenser, des impacts positifs qui peuvent quand même montrer sur le fait qu'ils contribuent à autre chose ailleurs, à l'autre bout du monde.
Mais pour cela, il faudra que ces certificats soient crédibles. L'enjeu est donc d'en assurer l'intégrité. Les crédits carbone ont, eux, été entachés de plusieurs scandales. Des ONG craignent que ce soit un outil de greenwashing et s'opposent aux crédits biodiversité.
La question d'environnement, signée Pauline Glaise. Il est 6h26 à Paris. Dans quelques minutes, le retour de l'actualité africaine. Mais pour l'instant, un petit peu de musique. Marilia Lopez avec le rappeur Rachid Kwemweiser sur RFI.
Relógio e tic-tac, xadrez e xeque-mate, coração e o bate, 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 televisão e novela, Gisele e passarela, o funk e a favela, um só existe por causa do outro, outro sozinho se sente tão pouco, que louco, que louco. Se não for eu, quem vai ser? Só teu. Se não for você, quem vai ser? Só meu. Se não for eu, quem vai ser? Só teu. Se não for você, quem vai ser? Só meu. Teu, meu, yeah. Rachidê.
É pique Yang In, não e sim, Jake Finn. Galvão Bueno sem plim plim, bochecha sem Claudine. Show sem aplaudir, é um disquite, é esse hit sem você pra ouvir. E esse lance é o que me faz completo. Teu abraço preenche tudo, entre o chão e o teto. E meu coração nas nuvens, buscando uma casa. O amor é um voo, onde cada um é uma asa. A gente é paz pra casa e férias pra NASA. Quando o beijinho já embrasa e a pele vaza. Não é novidade, não existe poesia sem palavra. E no meu caso, não existe palavra sem verdade.
Um só existe por causa do outro, outro sozinho se sente tão pouco. Que louco, que louco. Se não for eu, quem vai ser? Só teu. Se não for você, quem vai ser? Só meu. Se não for
Kwemweiser, Marilia Lopez et Rachid dans la playlist de RFI ce matin. Restez avec nous dans un instant, le retour de l'actualité africaine.
Mmh. Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
lésions des ligaments, luxation de la rotule, arthrose, prendre soin de ses genoux.
Demain,
quand l'addiction fragilise la famille.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Lamas Rock, Jarin FX et RFI Talent présentent Zare Litri. Découvrez Sarah Niel, le deuxième single du trio franco-marocain de Marseille.